Radio X On Demand est propulsé par Podbox, la plateforme média digitale qui vous permet d'écouter Choix partout où vous le voulez et quand vous le voulez. Podbox.com pour en savoir plus.
Marceau, le soir, avec Marceau.
Radio X.
9h55, Stéphane Leblon de chez Leblon et Associés, syndic autorisé en insolvabilité, est en studio avec nous. Salut Stéphane.
Bonsoir.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi-même.
T'as-tu passé une belle journée?
Oui, oui, oui.
Beaucoup de boulot ces temps-ci?
Oui, beaucoup de boulot ces temps-ci. Ça paraît quand les campagnes de pub recommencent, là, ça sonne encore plus que d'habitude.
C'est vrai?
Oui, oui.
C'est efficace de faire de la publicité à Radio X.
Très efficace.
Ben oui, puis en plus, on te reçoit comme collaborateur.
C'est bien.
C'est à barouette.
Le meilleur de deux mondes.
Oui. Mais je te pose la question comme ça. Y a-tu des moments de l'année où tu sens que les appels arrivent un peu plus? T'sais, moi, j'imagine, puis des fois, je suis un peu dans mon monde. Là. Tu sauras me le confirmer si j'ai raison ou si j'ai tort. Mais j'imagine que des fois, le temps des fêtes, les gens en profitent pour dépenser. Mais après les fêtes, là, les gens disent, regarde, ça n'a pas de maudit bon sens. Faut que j'essaie de me sortir de mes dettes. J'appelle un syndic autorisé en insolvabilité. Est-ce qu'au mois de janvier, c'est pas mal
ouais,
le moment où c'est plus achalandé?
De la façon que ça se passe dans l'année, là, ça commence, c'est bien tranquille le début de l'année.
Ouais.
Fin janvier, là, il y a une recrudescence. Ça va jusqu'à première semaine de mars. Première semaine de mars, il ne se passe rien.
Mm-hmm.
Ça baisse parce que c'est la semaine de relâche puis les gens ont d'autres choses à faire que de régler leurs problèmes financiers. Puis ça reprend, après ça, milieu mars jusqu'au milieu juin. Là, il y a les vacances. Puis après ça, ça recommence pour la peine au mois d'août d'habitude, là, jusqu'au début décembre.
Aux vacances, on dépense, puis après ça...
C'est ça. Mais c'est la courbe, là, ça représente à peu près ça là, d'une année à l'autre.
Ouais. C'est drôle, cette question-là vient d'arriver, puis on en a parlé, si je ne me trompe pas, il y a deux semaines. Il y a des gens qui... c'est une légende urbaine qui court depuis des années, parce qu'on l'a entendu souvent. Là. Il y a des gens qui disent « Moi, j'ai pas les moyens de faire faillite. » Pourquoi que c'est arrivé, ça, cette légende urbaine-là? C'est, dans le temps, les gens avaient-tu plus les moyens de faire faillite?
Ben, le fait que les gens qui disent qu'ils n'ont pas les moyens de faire faillite, c'est peut-être parce qu'ils n'ont jamais rencontré un syndic ou ils n'ont rencontré juste un... ça ne lui tendait pas de faire affaire avec ces gens-là. Mais, tu sais, faire faillite, là, il y a l'arrêt Berthelet là, qui a été rendu il y a quelques années par la Cour suprême du Canada qui a été repris dans la loi.
L'arrêt Berthelet.
Berthelet, oui.
Ouais, tu veux que ton enfant soit intimidé à l'école, appelle-le Berthelet. Ouais.
La loi a été modifiée suite à ce jugement de la Cour suprême, là, qui permet, en gros, ça dit que même si la libération pour une première faillite, c'est après 9 mois,
ouais.
Ça coûte à peu près 1 800 $, une première faillite, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de revenus et qui n'a pas de biens. Alors, avant, il fallait que tu payes ça en 9 mois, 200 $ par mois pendant 9 mois. Puis avec la nouvelle, depuis les modifications de la loi, tu peux payer 100 $ par mois pendant 18 mois. Fait que tu sais, à 100 $ par mois, c'est tout étant relatif, c'est pas beaucoup pour se libérer de dettes qui peuvent être de 10, 12, 15, 20 000 $. Il y a un programme au fédéral qui s'appelle le programme de référence, puis c'est ça auquel tu référais tantôt, qu'on a parlé il y a une quinzaine de jours. C'est si tu vas voir un syndic de faillite, puis tu estimes que tu n'as pas les moyens de faire faillite parce qu'il a demandé un trop gros dépôt ou pour diverses raisons, tu vas voir un deuxième, un troisième, tu appelles au bureau du surintendant des faillites, puis là, il y a une liste de syndics qui ont adhéré au programme de référence, puis ils vont te dire, ben, regarde, là, le prochain sur la liste, c'est M. Leblon ou M. Bresse ou peu importe qui. Puis il va te recevoir, puis en principe, tu n'es pas supposé charger plus que 500 $.
OK.
Ça permet à personne de se libérer de ses dettes. Mais tu sais, il y a des cas vraiment sympathiques où tu vas le prendre pro bono. Tu sais, la personne elle est vraiment d'une indigence épouvantable.
Oui, personne âgée, exemple, qui n'a vraiment pas de revenus.
Oui, quelqu'un qui n'a vraiment pas les revenus, puis c'est bad lucky. On en prend tous les bureaux en prennent une fois de temps en temps. Là,
ouais.
Ça fait partie de notre mission sociale, entre guillemets.
Mm-hmm. Ouais, tu vois, je trouve ça intéressant parce que Maître Bellemare fait ça aussi avec certains dossiers. Tu fais la même chose. Ah ben ouais, c'est le fun.
Mm-hmm.
Ben oui, c'est le fun.
Mais tu sais, le surintendant des faillites voulait amener faire des modifications pour plus que ce soit uniquement les syndics de faillite qui gèrent les dossiers de faillite parce qu'il disait qu'il y avait une possibilité que l'accès à la faillite puisse être problématique. Puis le programme de référence, ça venait régler ce problème-là.
Okay.
Alors, quelqu'un qui dit qu'il ne peut pas faire faillite, alors, qui me lâche un coup de fil, on va trouver une solution.
Okay. Mais tu as parlé de dépôt tantôt. Est-ce que les syndics autorisés en insolvabilité demandent des dépôts?
Ça dépend des dossiers.
Okay.
Quelqu'un qui est, Quelqu'un qui travaille, même s'il n'y a pas un gros revenu, on ne lui demandera pas de dépôt. T'sais, on va prendre le risque. Là. De toute façon, si la personne ne paye pas ce qui est convenu de payer avec le syndic peut s'opposer à sa libération. La personne ne sera pas libérée tant qu'elle n'aura pas payé la balance là, des honoraires du syndic
okay.
ou les frais de la faillite.
Parce que il arrive des fois où tu fais faillite, puis c'est parce que vraiment, là, il est arrivé une bad luck, maladie, tout ça. Il arrive des fois où tu fais faillite parce que tu n'as pas géré ton affaire. Ça se peut aussi que tu décides de ne pas gérer ton affaire
oui.
quand c'est le temps de faire un chèque au syndic autorisant l'insolvabilité.
Ouais, mais
il y a des mauvais payeurs chez les syndics autorisant l'insolvabilité.
Oui, effectivement, il y a des mauvais payeurs. Puis la question du dépôt, c'est que si maintenant quelqu'un vient te voir. Puis c'est un dossier extrêmement complexe. Puis la personne n'a pas beaucoup de biens là, vendables qui pourraient servir à payer le syndic, parce que le principe de la faillite, c'est ça.
Ouais.
Tu cèdes tes biens au syndic, le syndic les vend, puis on distribue le produit entre les créanciers, mais ils se payent avec l'autorisation de la cour. Mais si tu estimes que le dossier est très complexe, puis tu vas mettre des heures et des heures là-dedans, puis il n'y a pas beaucoup d'actifs pour te payer, bien, tu peux demander un dépôt. Tu te dis, regarde, moi, je suis bien prêt à le prendre ton dossier,
ouais.
mais je vais avoir besoin d'un dépôt de 1 000, 1 500, 2 000 ou plus, dépendamment des cas. Puis là, la personne a dit, ben, regarde, c'est trop cher pour moi, je vais aller voir un autre syndic. Puis il y a peut-être d'autres syndics qui vont le prendre à moins cher mm-hmm. ou à plus cher. C'est compétitif, on est dans le privé.
Question pour Stéphane Leblon. Si le syndic, la personne qui fait faillite, attends un peu là. Des fois, les mots sont pas tout le temps dans l'ordre. Le syndic de la personne qui fait faillite, le syndic a-t-il un recours judiciaire si cette personne ne dit pas tous les passifs de sa faillite, que ce soit un particulier ou encore une entreprise?
Oui, c'est d'ailleurs le but de le thème de la chronique ce soir. Il y a des articles de la loi sa faillite qui mentionnent c'est quoi qu'une personne doit faire quand elle est en faillite. Puis, il y a les infractions aussi à la faillite. Puis, une des infractions sont à l'article 199 de la loi sa faillite.
Oui.
Où on dit, entre autres, commet une infraction et en cours sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, blablabla, une amende maximale de 5 000 $ ou un an maximal de prison. Alors, il y a les choses qui peuvent être faites là, en contravention de ça. Refuser ou négliger de répondre complètement et véridiquement à toutes les questions qui lui sont posées à bon droit lors d'un interrogatoire tenu conformément à la loi. Pas déclarer son passif, pas collaborer avec le syndic, etc. Ça, c'est une infraction en vertu de la loi sa faillite. Quand le syndic a connaissance de cette infraction-là, il doit la rapporter au séquestre officiel, qui est le représentant du surintendant des faillites dans le district judiciaire où le dossier est déposé. Puis ce qui fait le séquestre officiel, il va procéder à l'interrogatoire de cette personne-là.
Oui.
Puis, dépendamment des résultats de l'interrogatoire, il va donner ou pas le dossier pour enquête à la Gendarmerie royale du Canada, qui ont des pouvoirs d'enquête, sortir les relevés bancaires, des choses comme ça. Puis, le résultat de l'enquête de la GRC va être remis, le cas échéant, à un procureur de la Couronne qui, lui, va décider s'il entreprend des procédures au niveau des infractions là, devant la cour.
OK. Je ne sais pas si c'est par curiosité ou curiosité malsaine, mais on te demande, Stéphane, si les syndics autorisant l'insolvabilité ont suivi des updates concernant la crypto-monnaie.
On a des colloques une fois de temps en temps, puis
ouais.
Dans les sujets intéressants, il y a ça.
Ouais.
Puis il y a comment il s'appelle le monsieur Lacroix là, qui fait les manchettes, mais il avait
oui.
sorti le Plexcoin, je ne sais pas trop
Plexcoin,
quoi.
Plexcoin, oui.
Fait que, tu sais, ça donne lieu à des jugements intéressants qui sont discutés lors des colloques. Mais tu sais, ça évolue très, très rapidement, puis c'est tout nouveau. Fait que mm-hmm. la jurisprudence va se faire tranquillement, mais c'est des sujets intéressants.
Parce qu'on mentionne souvent que la crypto-monnaie, c'est impossible de retracer tout ça. Dans le cas de Dominique Lacroix et ses Plexcoins, là, je veux dire, autant aux États-Unis qu'au Canada, ce gars-là est poursuivi. Puis là, présentement, il est en prison parce que le juge a dit « Tu veux nous niaiser, mon homme? Tu t'en vas en prison maintenant. Je vais te donner la chance dans quelques mois de revenir pour nous donner tes mots de passe, mais on va t'avoir avant que toi, tu penses nous avoir. » Et ce gars-là doit aussi de l'argent aux États-Unis. Là, ça commence à être très, très, très sérieux.
Oui, aux États-Unis, il y a la SEC, là, la Security and Exchange Commission, qui sont beaucoup plus vindicatifs, si je peux me permettre le terme, là, que les autorités canadiennes. Alors lui, s'il remet le pied aux États-Unis, j'ai l'impression que ça va être sa fête. Mais qu'il ait été emprisonné parce qu'il a refusé de donner ses mots de passe, il y a déjà eu un épisode où il avait fait transférer
oui.
dans le compte du du liquidateur de la compagnie ou de l'administrateur de la compagnie.
Directement au palais de justice.
Directement en face du juge, là, parce que le juge l'a menacé de l'envoyer en dedans.
Mais, fait que ceux qui pensent qu'il y a moyen de se protéger puis de cacher ses avoirs dans la crypto-monnaie, là, tout se retrouve à un moment donné.
Ben, c'est ça, tout se retrouve, mais tu sais, c'est dur, c'est impossible à retracer pour l'instant.
Oui, mais toi, t'es possible à retracer si jamais t'as fourré quelqu'un.
Oui, mais tu sais, la terre, c'est grand. Tu sais, quelqu'un qui aurait fraudé des investisseurs pour des millions de dollars,
ouais.
Ben, j'ai l'impression qu'il ne restera pas dans la même province ou le même pays où ces infractions-là auraient été commises. T'sais, il va aller aux États-Unis, il va aller à une place où il n'y a pas de traité d'extradition avec le Canada. Les pays européens, les pays de l'Est, la Suisse.
On a qu'à remettre la lobotomie obligatoire pour ces gens-là. Là.
Mais les investisseurs, ils récupéreront pas leur argent.
Là. Non, exactement, exactement. Ce soir, on parle des devoirs et des obligations d'une personne qui fait faillite ou encore une proposition, parce qu'on le sait, vous offrez trois services là, pour ce qui est des syndics autorisant l'insolvabilité. Il y a la faillite, il y a une proposition, puis il y en a une autre que j'oublie souvent.
Ben, il y a la proposition commerciale, la partie 1 de la loi, la proposition de consommateur. La faillite de consommateur, là, qui est la faillite sommaire la plupart du temps, puis la faillite commerciale, qui est la faillite ordinaire, où là, la publication dans le journal, les assemblées de créanciers, etc. Mais il peut y avoir d'autres services aussi. Si on estime que la personne n'est pas insolvable puis qu'elle aurait besoin d'un refinancement, bien, on va la diriger vers les ressources pour qu'elle puisse avoir son financement. Puis si il faut qu'elle vende certains actifs, puis il faut qu'elle vende ça rapidement, bien, on peut le donner des références à certaines gens qui achètent ce genre d'actifs-là pour lui permettre de réaliser des liquidités puis aller payer ses dettes. Mais quand une personne fait faillite, c'est bien le fun, on se libère de ses dettes, puis le syndic, c'est comme un grand magicien, sauf que il y a des contraintes aussi. La loi impose à une personne différentes obligations, puis les obligations sont déterminées dans la loi. Il y a l'article 158 de la loi Savitt qui dit que le failli doit révéler et remettre tous ses biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle au syndic ou à une personne que le syndic autorise à en prendre possession en tout ou en partie. Alors, quand la personne rencontre le syndic et qu'on signe la paperasse, on signe le bilan. Et le bilan, c'est la liste de tout ce que vous possédez. Il y a des choses qui sont saisissables, des choses qui ne le sont pas. Généralement, on va mettre les meubles blancs. Ça, c'est insaisissable au Québec jusqu'à valeur de 7 000 $. On va lister le véhicule, on va lister les placements de cette personne, les régimes enregistrés d'épargne-études, les REER, etc. Puis, on va lister ça. Puis, si la personne, elle refuse ou elle induit le syndic en erreur, bien, ça constitue une infraction en vertu de la loi Savitt. Puis, les gens s'imaginent que le syndic, il n'y a pas de pouvoir d'enquête, mais tu sais, les gens qui perdent l'argent, les créanciers, c'est eux autres qui sont les plus mammaires la plupart du temps. Alors, tu sais, tu vas avoir un banquier, mettons, qui avait consenti une marge de crédit de 30 000 $, qui est utilisée au complet. Il reçoit le bilan de la faillite, puis il dit, ce créancier-là appelle le syndic, il dit, savez-vous, c'est parce que quand il a emprunté, il y a 3 ans, il m'a dit qu'il avait, il attendait un héritage où il y avait tel type de placement qui valait une fortune, ou qu'il y avait des véhicules de collection, on pourrait-tu savoir où c'est que c'est rendu? Alors, on va poser la question à la personne qui a fait faillite. Puis si on a des réponses qui ont de l'allure, on va les donner aux créanciers. Puis si ça n'a pas d'allure, bien là encore, on va faire intervenir le séquestre officiel, comme on avait dit tantôt, pour qu'il interroge la personne, ou encore, le syndic peut interroger la personne à la cour devant le registraire. C'est comme un vrai interrogatoire à la cour. Puis le syndic va prendre les actions qu'il faut pour récupérer ces biens-là, les rapatrier dans le patrimoine du failli, les liquider, puis en distribuer le produit entre les créanciers.
Question d'un auditeur par téléphone. On nous demande si, en venant le cas, on fait affaire, par exemple, que ce soit avec Bell ou Vidéotron, peu importe quel câbleau distributeur ou bien quel service cellulaire qu'on a. Est-ce que c'est vrai qu'après un bout de 5 ans, et après qu'on n'ait pas payé tout ça, ils sont oubliés d'effacer notre dette?
Bien, au Québec, la prescription, un compte qui n'est pas payé pendant 5 ans, puis que, alors à ce moment-là, la dette, on dit qu'elle est prescrite. Alors, le créancier ne peut pas entreprendre de procédure judiciaire pour récupérer cette dette-là. Sauf que la personne, si elle devait 350 $ à Vidéotron, mm-hmm. puis elle ne les a pas payés, puis 5 ans après, elle veut se rebrancher à Vidéotron, Bien, ils ne sont pas obligés d'accepter sa clientèle non plus.
Là. OK.
Puis d'ailleurs, ils ne le prendront pas.
Non, mais je m'en doute.
c'est assez compétitif, de toute façon, aujourd'hui. Là, avec l'Internet, tu peux être abonné à pratiquement n'importe quel service. Ouais. Puis tu as de belles télé, puis tu as une série aussi. Une chose aussi, quand les gens ils sont surpris qu'on leur dise ça, c'est l'article 158, il dit « Dans les circonstances prévues par les instructions du surintendant, remettre au syndic pour annulation toutes les cartes de crédit délivrées au failli et en sa possession ou sous son contrôle. » Alors, les gens disent « Regarde, moi, là, je vais mettre dans ma faillite les quatre cartes de crédit avec lesquelles j'ai les plus grosses dettes, puis celles de telle banque Mastercard, je vais la garder, puis je n'ai besoin, puis c'est juste un petit montant. Mm-hmm. » Ben ça ne fonctionne pas comme ça. C'est tout ou pas en tout. Tu les remets toutes au syndic pour les annuler. Puis même les cartes qui n'auraient pas de solde dessus. Et les gens, il est arrivé des cas où les gens me disaient, « Ben regarde, moi, je veux faire une proposition de consommateur. » Et ils ne nous déclarent pas toutes ces cartes de crédit. Alors, les créanciers nous appellent. C'est drôle, hein? Moi, j'ai vérifié son dossier de crédit. Et la personne, pourquoi moi j'accepterais de perdre 50% de ma créance alors que Mastercard, Banque de Montréal, mettons, qui n'a pas déclaré sur sa proposition, les autres, ils vont être payés à 100% parce qu'il a décidé de les payer. Alors, tu sais, on revient à la personne puis on dit, regarde, il faut les mettre là-dedans. Alors, ça peut causer des problèmes. Puis il y a des gens qui vont dire, ben regarde, moi, je ne le mettrai pas parce que ma mère a m'endossé sur cette carte-là ou mon père m'a endossé sur cette carte-là. Ben c'est le même principe. Tu dois remettre les cartes au syndic. C'est plate pour le père ou la mère ou la personne qui a endossé ça, mais quand le banquier demande un endossement, c'est parce qu'il estime qu'il y a un risque. Puis des fois, ce risque-là se concrétise.
J'ai deux questions par rapport à ça. Oui. De un, c'est Richard, qui semble être propriétaire d'immeubles à logement. Bonsoir, M. Leblond, j'ai un jugement de la régie du logement. Mes locataires ont fait faillite sans déclarer ma dette qu'ils me doivent. Un an après, j'ai fait des démarches pour saisir le salaire et j'ai reçu une lettre du syndic de cesser mes démarches. Avoir su, j'aurais pas payé un huissier. J'ai perdu 350 $ pour rien. Est-ce que j'ai un recours?
Bien, les personnes qui ont fait faillite, qui ont été libérées de leurs dettes, mais toutes les dettes, pas juste celles qui ont déclaré, toutes les dettes, même celles qui auraient pu être oubliées ou non révélées.
Ah oui?
Le seul recours, c'est que les faillis pourraient être condamnés à payer à cette personne-là, le locataire dans ce cas-là, l'équivalent de ce que les autres créanciers ont eu dans sa faillite. Fait que si le syndic, quand il a fermé son dossier, il a donné un dividende de 10 % aux créanciers, ben, la personne qui aurait été oubliée ou omise dans la faillite, elle pourrait récupérer 10 %. Puis évidemment, si elle a engagé des frais légaux, là, ben là, moi je pousserais pour qu'elle les paye aussi. Là.
OK. Prochaine question. Je pense qu'on y a souvent répondu à cette question-là, mais en même temps, c'est faut toujours éduquer les gens hein, quand ils passent de l'argent à quelqu'un. Salut! Mon ex me doit une dette personnelle avec reconnaissance de dette. Elle veut m'embarquer dans sa faillite, mais je n'ai pas encore de nouvelles d'un syndic quelconque. Devrais-je m'inquiéter? Si elle m'embarque dans sa faillite, vais-je revoir l'argent qu'elle me doit?
Bien, si elle décide de faire faillite, elle doit dévoiler toutes ses dettes, de quelque nature que ce soit. Alors que ce soit une dette personnelle, une dette de carte de crédit, une marge de crédit, elle doit le dévoiler. Puis s'il reçoit un avis du syndic, bien, il faut qu'il remplisse sa preuve de réclamation. Puis à la fin du dossier, quand le syndic va distribuer l'argent à tes créanciers, il va recevoir n'importe quoi entre 0 puis 100 %. 100 % c'est plus rare, mais 0 c'est plus commun. Mais ça peut être n'importe quoi entre les deux. Puis s'il reçoit zéro, bien, il n'y a plus de recours contre la personne. Il y a certains types de dettes, les dettes qui sont non libérables, mais ils sont assez limités. Là. C'est entre autres les dettes de pension alimentaire à cause de la nature spéciale de cette dette-là.
Ouais.
Les dettes de nature pénale, les infractions, les tickets, les choses comme ça, c'est pas libérable. Les dettes de pré-étudiants dans certaines circonstances, puis les dettes qui résultent de la fraude ou de la fausse représentation. Puis ce qu'on voit généralement là-dedans, c'est les gens qui auraient fraudé le chômage ou l'aide sociale. Alors, quand ils sont libérés de leur faillite, ils ont des nouvelles de ces créanciers-là pour se faire payer leur dû.
Autre question. Bonsoir, M. Leblond. Je veux faire une consolidation de dettes. Comment je fais pour savoir quelle agence de recouvrement a mon dossier pour retracer toutes les petites dettes de jeunesse?
Vous pouvez faire venir une copie de votre dossier de crédit. Là. Dans le dossier de crédit, il y a une section là, des comptes en recouvrement. Puis vous allez avoir les noms des agences, puis les numéros du dossier, puis le créancier qui représente.
Okay. Mais Steph, tu m'en as appris une bonne ce soir. Même les dettes qui n'ont pas été déclarées au syndic de faillite, ouais. Ben à partir du moment où la personne est déclarée faillie, c'est ce qu'on dit ça?
Faillie, oui.
Faillie. Même les dettes qui n'ont pas été déclarées embarquent dans cette faillite-là.
Ouais.
Je ne suis pas sûr que tout le monde savait ça.
Non, il n'y a pas grand monde qui savent ça.
Pour ça que c'est important que tu viennes.
C'est parce que, tu sais, puis des fois, c'est des dettes qui peuvent avoir été oubliées. C'est une ouais. dette qui date de bien longtemps ou la personne, elle a carrément oublié. Puis je reçois un appel. Tu sais, à un moment donné, elle m'appelle. Elle dit, ça fait deux mois que j'ai fait faillite. J'ai oublié telle dette. Alors, pas de problème. On envoie un avis de la faillite puis une preuve de réclamation au créancier. Puis le créancier nous appelle. Il dit, ouais, moi, j'embarque pas dans la faillite. Elle m'a pas déclaré au début. Mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Puis on y envoie. Quand c'est des gens parlables, on leur envoie les références, puis on s'organise là, pour qu'ils remplissent leurs preuves de réclamation.
Je suis ma mère un peu. Ça arrive souvent qu'il y a des gens qui prêtent de l'argent à leur amoureux, amoureuse, puis qu'on mette ça dans la faillite. T'as-tu déjà vu ça passer dans ton métier?
Oui, ça arrive. Mais quand ils déclarent facilement qu'ils doivent de l'argent à un tel ou une telle, c'est parce que c'est leur ex.
Ouais.
Ça les dérange moins de les embarquer dans la faillite. Mais ça fait des dossiers qui sont plus rock and roll parce que l'ex qui s'est fait non seulement qui a perdu de l'argent par le prêt qui n'a pas été remboursé, mais qui s'est souvent qu'autrement fait flusher aussi, il prend ça plus à cœur, ce genre de dossier-là. Puis le syndic, même si le syndic il représente l'ensemble des créanciers, bien, il peut être à tort associé ou on pensait que la personne qui a fait faillite a coquiné avec le syndic pour priver le créancier de son argent, mais c'est une mauvaise compréhension du système.
On pense toujours connaître la personne avec qui on partage notre vie, mais je vous le dis, le jour où cette personne-là va quitter votre vie, c'est à ce moment-là que vous allez vraiment savoir si vous la connaissiez.
Ouais, puis là, toute votre chambre va dire, je te l'avais dit, je te l'avais dit, puis tel signe, tu sais, quand t'as fait telle affaire, quand t'as dit telle affaire, c'était ça qu'elle voulait dire.
C'était une folle. Ouais, on l'a déjà entendu, celle-là. Qu'est-ce qu'il nous restait à apprendre ce soir?
Ah, ben une infraction aussi, une des obligations d'une personne qui fait faillite, c'est de remettre au syndic les livres, registres, documents, écrits, papiers, notamment les documents titre police d'assurance, toutes les affaires sur ces affaires fiscales, parce que le syndic, lui, dans certains cas, c'est pas dans tous les cas, mais il peut remonter pour analyser certaines transactions. On voit ça plutôt au niveau commercial. La personne qui fait faillite aussi doit aider le syndic à dresser un inventaire de ses avoirs ou donner au syndic toute l'assistance qu'il peut donner pour dresser l'inventaire. Le syndic prend un commerce, il a besoin d'inventaire parce que c'est bien il a besoin d'aide pour faire l'inventaire parce que c'est bien particulier.
Ouais.
Alors le failli doit porter assistance au syndic pour l'aider à faire l'inventaire. Également, la personne doit révéler au syndic tous les biens aliénés au cours de la période qui va dans l'année de la faillite. Alors, tu sais, les transactions spéciales. Oui, oui, j'ai cédé ma maison à ma femme, tu sais, dans la dernière année ou dans les deux dernières années.
Mm-hmm.
Alors, ça fait partie du questionnaire standard, l'annexe B là, du bilan de faillite. Puis la personne doit révéler ça au syndic. Ça ne veut pas dire que le syndic va tout reviser ces transactions-là puis tout défaire. Parce que des fois, ça a bien été fait. Des fois, il y a un intérêt légitime, il y a une contrepartie qui a été donnée, il n'y a pas de problème. Mais tu sais, si tu ne le déclares pas, là, tu es dans le trouble. Parce que le syndic peut encore, là, faire des plaintes au bureau du surintendant de faillite parce qu'il y a des infractions.
Quelqu'un qui est, en fait, quelqu'un que je peux le nommer, Yann, il dit « J'ai appris qu'il ne fallait jamais dire « Elle me fera jamais ça à moi » le jour où elle est partie avec mon frère. J'ai perdu une femme, j'ai perdu un frère. »
Et ça fait toutes des parties de Noël.
C'est lourd.
Ah ouais. Mais son frère, il a fait un Martin Brodeur.
Ouais, ouais, ouais.
Ah non, c'est jamais le fun.
Une autre aussi, une chose que les gens ne savent pas, là, on ne les fera pas toutes, mais on dit jusqu'à ce qu'il ait été disposé de la demande de libération, puis jusqu'à ce que l'administration du dossier ait été complétée, la personne qui est en faillite, elle doit tenir le syndic constamment informé de son adresse ou de son lieu de résidence. Parce qu'on voit des gens qui viennent nous voir, qui disent, « Ben, regarde, moi, tu commences à jaser de leur affaire, j'ai telle dette, tel actif, je travaille dans tel domaine, j'ai tant de revenus. » Puis tu lui demandes, « Est-ce que vous avez déjà fait faillite antérieurement? »« Oh oui, ça fait longtemps, là, en 1998. »
Ouais.
Parfait, là, tu vas sous le registre national des faillites, puis là, parfait, monsieur un tel date de naissance. Oui, effectivement, vous avez fait faillite en 98. Puis c'est plate parce que vous n'avez pas été libéré de cette faillite-là. Là, il dit, comment ça? Ben, avez-vous déménagé pendant que vous étiez en faillite? Ben oui, 6 mois après, là, j'étais allé travailler dans le Nord. Okay, avez-vous avisé le syndic de ça? Non, j'ai pas pensé. Ou je le savais pas. C'est parce que, tu sais, si la personne, elle devait payer des montants ou le syndic attendait des réponses à certaines questions, le syndic s'est opposé à la libération de cette personne-là. Puis comme la personne ne s'est pas présentée à court parce qu'elle ne savait pas, la demande de libération a été rayée. Le syndic a fermé son dossier. Alors, il faut que la personne, si elle veut faire une nouvelle faillite, soit libérée de la première faillite avant d'en faire une nouvelle, parce que pour faire une faillite, il ne faut pas être un failli non libéré. Il faut être une personne insolvable. Une personne insolvable, ce n'est pas un failli non libéré. Dans les infractions, une affaire qui est le fun aussi, c'est que... Une affaire qui est le fun dans les infractions,
ouais,
là...
c'est... contradictoire un peu.
C'est...
Ah, j'ai pas eu de point de démérite, pas pire. Ça m'a coûté 1 000 $.
Les gens qui refusent de répondre aux questions lors des interrogatoires fait une fausse inscription ou commet sciemment une omission importante dans un état ou un compte. Alors ça vise les créanciers. Alors un créancier qui fait une fausse réclamation, qui gonfle sa réclamation ou qui n'est pas créancier pantoute, puis il produit une faillite.
Ouais, t'as-tu déjà vu ça passer?
Oui, j'ai déjà eu. Oui. Tu rejettes la réclamation, puis après ça, tu fais une plainte au bureau du surintendant des faillites, parce que c'est une infraction grave, ça. Parce que ça nuit à l'intégrité du système de faillite.
Ouais.
Puis c'est le genre de dossier où le surintendant des faillites va vouloir faire un exemple pour réprimer ce genre d'élan-là. Puis une personne aussi va commettre une infraction si, pendant qu'elle est en faillite, elle demande un crédit de plus de 1 000 $ sans dévoiler qu'elle est un failli non libéré. Alors, tu peux, quand tu es en faillite, demander une carte de crédit de 500 $ sans dévoiler que tu es un failli non libéré. Sauf, évidemment, si l'émetteur de crédit te demande si tu es en faillite, si tu as déjà fait faillite, tu dois lui répondre. Mais si tu demandes une carte de crédit avec une marge de 2 000 $ dessus, puis tu es en faillite, tu dois dévoiler, avant de faire la demande, que tu es un failli non libéré. Ça ne veut pas dire que tu ne l'auras pas, mais tu es obligé. Si tu ne le fais pas, ça constitue une amende en vertu de la loi sur la faillite. Puis aussi, un failli qui entreprend un commerce sans révéler à toutes les personnes avec qui il conclut des affaires qui est un failli non libéré, ça constitue une infraction aussi. Alors, tu sais, les gens, avant de poser n'importe quel geste, là, avant de faire faillite, quand ça va mal, là, ces gestes-là, ça peut avoir des conséquences importantes.
Mm-hmm.
Puis, tu sais, on le dit souvent, tous les bureaux de syndic le disent, appelez-nous sans frais. Là. T'sais, une première rencontre, c'est sans frais, on placote pendant une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça évite bien des lendemains douloureux.
All right. Je repense encore au gars qui dit « J'ai appris qu'il ne fallait jamais dire « Elle me fera jamais ça à moi » quand elle est partie avec mon frère. J'ai perdu un frère, j'ai perdu une femme. »
Mais dis-toi que... c'est les gars qui ont ça qui se sont fait avoir par le Rex, là. Mais moi, j'en vois des deux bords aussi.
Oui, c'est sûr.
C'est pas mal égal, ça, des deux bords.
J'ai une question qui est peut-être bien niaiseuse, là. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de faillites qu'on peut faire?
Non, ça, c'est une question qu'on se fait poser souvent, là. Tu sais, idéal. Il n'y a pas de maximum. Tu sais, moi, j'ai eu une personne qui a fait faillite avec moi qui a été libérée de sa 5e faillite.
OK.
Il y a certaines conditions, mais évidemment, il ne faut pas se rendre à 5 faillites. Parce que la loi prévoit que les créanciers, le surintendant de faillite, peuvent faire des représentations lors de la demande de libération, parce qu'évidemment, après 5 faillites, tu n'as pas de libération automatique. Puis la Cour peut rendre n'importe quelle décision qu'elle juge appropriée. Alors, ça peut être de remettre à plus tard la libération. T'sais, on a dit que tu vas être libéré dans 5 ans ou 10 ans. Vincent Lacroix, ça avait été suspendu 10 ans, sa libération.
Mm-hmm.
Ou encore, la Cour peut dire... Je refuse ta libération. Tu vas être un failli non libéré toute ta vie. Ça, c'est des cas très, 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 très rares. Tu sais, quand ça arrive, il faut un colloque, mais ça arrive. Une personne qui a abusé du crédit, là, qui est allée loader ses cartes de crédit, elle s'est servie de l'argent pour acheter de la drogue ou acheter des armes, envoyer ça dans un pays à ISIS. Tu sais, ça s'est déjà vu, ça. Alors, ça, c'est réprimé par les tribunaux. Alors, ce qui arrive, c'est pas sans espoir, par contre. La personne qui aurait une libération refusée, après quelques années, elle peut faire une proposition de consommateur. Le failli peut faire une proposition de consommateur, puis ça peut permettre de résoudre le problème. Mais, tu sais, il n'y a pas de nombre maximal de faillites.
C'est une question qui n'a pas rapport avec un syndic autorisé en insolvabilité, là, mais je pense que c'est une question qui est pertinente. Jeff dit « Salut, j'ai de l'espace pour 10 000 $ sur ma carte Visa et je n'ai plus besoin de ce 10 000 $-là. Ma carte Visa est à zéro. Est-ce que ça peut me nuire de la garder à 10 000 $?»
Ça peut, effectivement, ça peut te nuire.
Ah ouais?
Si tu n'as pas besoin, mais tu peux la garder comme backup, puis tu estimes que la pire chose qui peut arriver, c'est que tu n'as besoin pour 2 000 $ fait baisser la limite de crédit.
Okay.
Parce que ça fait du crédit ouvert, ça constitue un risque au niveau de ton crédit. Parce que si tu veux acheter un char après, ben, tu sais, ils vont considérer que tu peux tout l'utiliser, ce crédit-là, sur ta carte.
OK. Puis finalement, à un moment donné, être incapable de payer tout ce que
ouais,
tu as payé.
Parce que c'est une erreur que les gens font souvent. Là, ils ont 3-4 cartes de crédit qui ne servent pas. Ils s'en servent juste d'une. Mais tu sais, le crédit potentiel, il est encore là. Si tu t'en sers plus, là, tu fais fermer le compte avec l'émetteur.
OK. Puis est-ce que ça peut nuire si on fait descendre le coût de notre carte de crédit?
Ben,
Non, du tout. OK. Puis est-ce que c'est complexe?
Non. Tu appelles l'émetteur, tu dis, regarde, là, ma carte de crédit est tel numéro, il y a une limite de 10 000, je ne me servirai jamais de ça, je veux la faire baisser à 5 000. On dit, parfait, monsieur, on va baisser ça.
OK, parce que tu vois, c'est une question d'un auditeur, mais je trouve que c'est très pertinent. Je pense que j'ai fait un bout, là, je pense que je t'en avais parlé, ça fait 2 ans presque. 1 an et demi peut-être, j'ai fini de payer ma carte de crédit. En fait, c'était mon voyage à Vegas de 3 ans. Puis je dois avoir à peu près 20 000 $ de lousse là-dessus. Là.
Ben, si tu prévois pas n'avoir de besoin, là...
Qui a besoin de 20 000 $?
Ben, les entreprises.
Tu pourrais être surpris, Hein?
Ouais?
Ouais. Mais t'sais...
Tu me chargerais si cher que ça?
Non, mais c'est ça vaudrait la peine au moins de le faire baisser de moitié.
Ben là, oui. Ben oui. Salut, est-ce que c'est vrai qu'on peut payer les intérêts d'un prêt étudiant avec la même argent que celle du prêt? Je ne sais pas si vous comprenez bien.
Ben, le prêt étudiant, en principe, là, ça sert pour vivre. Si tu peux, s'il y a une portion de cet argent-là qui va servir à payer les intérêts, ben oui. C'est comme une marge de crédit. Si tu as besoin de faire un paiement sur ta marge, puis... De 200 pièces puis tu vas sortir 200 pièces de ta marge pour faire ton paiement. Là. Mais c'est pas recommandé. Là.
Exact. Stéphane Leblon de chez Leblon et Associés, syndic autorisé en insolvabilité. Si on veut vous rejoindre parce qu'on a des questions par rapport à une possible faillite ou une...
Ouais, les problèmes, les signes avant-coureurs que ouais. vous vivez. Alors, les gens de Québec, 418-525-4641. Les gens de l'extérieur, 1-877-525-4641. Il y a la page Facebook maintenant, LinkedIn et le site Internet qui va être revampé là, dans les prochaines semaines.
Est-ce que c'est ouais. tout toi qui s'occupe de ça?
Non.
Ah, me voilà surpris.
J'ai la relève qui s'en occupe.
Merci Stéphane.
Salut.
Bye bye.
Marceau, le soir. Radio X.